Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on est ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie. Faut virer ancien, il est toujours général de gendarmerie et il est vice-président du mouvement de Rafik Smati, Objectif France. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Bonjour.
Bonjour.
Et Virginie Leguet, vous êtes bonjour. Journaliste, éditorialiste. Merci d'être avec nous. Ce matin, alors, pas de mea culpa d'Emmanuel Macron. Nous avons eu raison, pas de mea culpa. Arrogance, est-ce qu'il a raison d'assumer? Comme disait Rafik Smati, justement, on va y revenir, deux salles, deux ambiances avec Angela Merkel. On va revenir également sur un sondage, 69% des Français ne voient pas de sortie de crise avant 2021, et vous? Et puis on va parler de la Coupe du Monde du Qatar, où visiblement de plus en plus de voix s'élèvent à l'initiative des équipes norvégiennes qui ne veulent pas aller au Qatar. On en parlera avec vous. Tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Virginie, c'est l'actualité très triste, c'est la mort de Bertrand Tavernier.
Oui, un cinéaste très prolifique qui a fait quasiment un film par an entre 90 et 2020, qui a commencé en étant l'assistant de Melville et qui a fait des films extrêmement différents en disant, ouais. Moi, à chaque fois que je choisis une histoire, elle est différente parce que j'ai besoin d'apprendre complètement cet univers et que ça me fait du bien de faire autre chose à chaque fois. Donc, c'est quelqu'un que je trouvais extrêmement sympathique. J'ai lu avec un peu de désolation un assez mauvais papier dans Libé qui le traitait de réalisateur embarrassant. Ouais. Je rappelle que il a été couvert de récompenses. Est-ce que ça en fait pour autant quelqu'un de critiquable? Je ne sais pas. Mais qu'il a fait des films magnifiques et qu'il a beaucoup tourné avec Philippe Noiret. Je crois qu'il a fait 5 films avec lui. Et que les acteurs qui ont travaillé avec lui lui étaient extrêmement fidèles et extrêmement attachés parce qu'il était très bienveillant avec les acteurs, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs.
Non. Effectivement, le titre de Libé est
que la fête s'arrête.
Dégueulasse. Et donc, un cinéma populaire, hélas, pesant. J'ai lu le papier, donc il lui rend hommage. Mais en même temps, à la fin, on voit quelques pics sur, effectivement, ce cinéma donneur de leçons pour Libération. Et c'est quand même un de nos plus grands cinéastes. Il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas lequel. Celui de Matteo. Oui.
En direct d'Italie.
Oui, en direct d'Italie. Jean-Luc Benamias.
Vous avez... Est-ce que vous comprenez? Enfin, moi, ça fait 40 ans que je ne lis plus la rubrique cinéma dans Libération.
Non, mais
je ne comprends jamais rien. C'est-à-dire que je lis deux lignes et j'abandonne. Ouais. Donc voilà, moi, Bertrand Tavernier, tu l'as dit, Valérie, L'horloger de Saint-Paul, mais il y en a eu beaucoup d'autres, on pourrait en citer au moins.
Il y a eu des
plus, coup de ça torchon, fait vraiment une série.
Coup de torchon.
Une série, puis là. Pardon, oui.
Oui, allez-y.
Voilà, ça fait une série de gens qu'on aime bien qui disparaissent. Bon, c'est dans l'ordre des choses, malheureusement. Mais voilà, grand bonhomme.
Grand bonhomme. Alors, ce soir, TF1, série film, va diffuser La fille de D'Artagnan. C8, ce sera dimanche, L'horloger de Saint-Paul. Film absolument remarquable. Et puis, Canal+ Cinéma, ce sera un dimanche à la campagne. Et puis, à signaler que MyCanal met à disposition tous les films de Bertrand Tavernier, si vous voulez les revoir. Mais c'est pas assez chic pour Libération, mais vous avez raison, c'est peut-être un journal dont il faut pas parler. Voilà.
C'est pas le journal, là, c'est la rubrique cinéma.
Ouais, enfin bref. continuons avec les hommages, Jean-Luc, vous aussi, c'est un coup de cœur.
Oh, c'est un coup de cœur facile, j'écoutais la pub sur Sud Radio sur le match de ce soir, mais c'est un coup de cœur pour l'ensemble des équipes de France, mais celle de rugby nous fait vraiment énormément plaisir. Enfin, le match de la semaine dernière, incroyable, on ne vit ça qu'en rugby, quasiment. Voilà. Mais je pourrais faire le même coup de cœur pour l'équipe de biathlon française, hommes et femmes, pour l'équipe de ski français, hommes et femmes, parce que globalement, dans cette période... Enfin, pour ceux qui aiment le sport, on a le droit de pas aimer le sport de compétition. Moi, j'aime ça. Ça libère vraiment beaucoup par rapport à la période, quoi. Et donc, on attend ce soir, on verra. Rien n'est fait.
Ouais. Non, c'est à suivre, mais espérons que vous leur porterez chance. Matteo, c'est un coup de gueule.
Oui, un petit coup de gueule parce que j'ai constaté avec un peu de regret que les faits qui se sont produits hier dans le mer d'Arabie, dans le détroit de d'Ormuz, n'ont pas été trop relatés par la presse française. Il s'agit d'un attaque, d'un petit attaque, si on veut, d'un missile iranien qui a touché, qui a frappé sur un cargo israélien. Et qui s'est trouvé justement dans les mers d'Arabie. Voilà, j'ai vu que d'autres médias à l'étranger en ont parlé plutôt largement. En France, seulement quelques titres, par exemple Challenge l'a repris, La Tribune l'a repris. Et après, par contre, voilà, par exemple Libération, je ne sais pas s'il en a parlé.
Ouais, mais je ne sais pas.
Je voudrais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que d'ailleurs cette question ouvre toujours un peu une interrogation sur les relations que la France a avec les pays du Moyen-Orient et son attitude vis-à-vis d'Israël.
Oui, c'est vrai que ça a été assez peu commenté. Quelqu'un, vous l'aviez vu passer, Bertrand Soublet, cette information ?
Non, je ne l'avais pas vu passer.
Bon, et vous, Jean-Luc, non plus ?
Pas plus, j'ai vu le cargo qui bouge le
canal
de Suez.
Oui, ça,
c'est un autre cargo, effectivement. Ça, c'est un autre cargo. Mais voilà, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que d'ailleurs, il y a aussi une prise de position au niveau de certains députés français à propos des relations entre l'Iran, la Corée du Nord et les Émirats arabes.
Absolument.
Des relations qui inquiètent certains députés, notamment Patrice Perrault et d'autres collègues qui ont signé une pétition.
Allez, Bertrand Soublet, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule pour quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. C'est une déclaration de Jean-Luc Mélenchon à propos des forces de sécurité qu'il a traité de bon à rien. Et très sincèrement, c'est pas un coup de gueule, je suis plutôt dépité qu'un député de notre Assemblée nationale puisse avoir des commentaires de cette nature sur les forces de l'ordre. Alors, on peut penser ce qu'on veut, mais les forces de sécurité font le travail qu'on leur demande de faire. Et quand on est député et qu'on aspire aux plus hautes fonctions de notre pays, on ne peut pas publiquement traiter les policiers et les gendarmes de cette manière. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas acceptable.
C'était à propos du rassemblement du carnaval de Marseille, c'est ça ?
Oui, mais il en a fait une généralité en disant que c'était des bons à rien qui n'étaient capables de mettre des amendes à tout le monde. Quoi.
Oui.
Franchement, je me mets à la place des forces de sécurité puisque j'en ai fait partie pendant très longtemps. Ouais. On ne peut pas avoir de respect et avoir confiance dans un homme qui a de tels propos vis-à-vis de ceux qui sont chargés de défendre notre société. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, lorsque ces locaux ont été perquisitionnés, de cette fameuse vidéo où il se comportait extrêmement violemment avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, je pense que ça lui a coûté très cher et que ça lui coûte encore cher et que son image en est durablement atteinte.
Oui. Pardonnez-moi. Oui. Et, il ne disait pas « Je suis la France » parce que
c'était
quelqu'un d'autre qui le disait.
La République, c'est moi.
La République, c'est moi.
La République, c'est moi. Signaler encore un policier qui a été renversé par un dealer. J'ai vu ça ce matin dans le journal. C'était dans le 15e arrondissement de Paris.
Oui.
Un dealer qui faisait sa tournée. Et il a foncé volontairement sur un policier à vélo et qui s'en est miraculeusement sorti. Mais voilà.
C'est, en France, on tolère ça.
Et on tolère ça. Et j'ai dit que je dirais tous les jours à chaque fois qu'il y a... Alors, il y en a plein. Hein. Je crois que le ministère de l'Intérieur reçoit tous les jours une page pleine. Vous allez me confirmer, Bertrand Soublet, d'incidents divers et variés, mais c'est vrai que ces incidents se multiplient, sont souvent très graves et que c'est à part de condamner fermement, il ne se passe pas grand-chose.
Oui, ce sont des dizaines d'agressions qui ont lieu chaque jour vis-à-vis des policiers et des gendarmes. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement, ils sont payés pour ça. Mais pour autant, je crois que l'État, en règle générale, n'a pas de réponse immédiate, ferme et suffisamment marquée pour que ce genre de comportement cesse.
Oui, ouais, absolument.
Et dans certains quartiers, certains jeunes se font même une réputation en agressant les forces de l'ordre dès qu'elles pénètrent dans les quartiers. Oui.
Ouais, je rappelle que dans l'Essonne, dimanche dernier, une trentaine de jeunes armés originaires de Sainte-Geneviève-des-Bois sont venus en découdre au centre-ville de Fleury-Mérogis en terrorisant les passants. Des mamans couraient avec leurs poussettes et ce sont une trentaine de jeunes qui sont arrivés armés de barres de fer et de couteaux et qui sont rués sur le parking du magasin Leclerc. Voilà. Tout ça, comme vous disiez, il y a des informations qui sont dans la presse quotidienne régionale, mais assez peu commentées d'une manière, avec une vision, j'ai envie de dire. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler de la santé. Bon, je vais peut-être un peu loin, allez, d'Emmanuel Macron et de voir comment comprendre ce non mea culpa d'hier. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble avec vous pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Bertrand Soublet, général de gendarmerie, vice-président du mouvement Objectif France et le mouvement de Rafik Smati, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien et Virginie Leguet, journaliste éditorialiste. On va parler donc de cette déclaration hier soir d'Emmanuel Macron qui estime qu'il n'a pas de mea culpa à faire alors que la veille il disait que nous n'avions pas été assez fous, assez audacieux. On va parler de ce sondage. 69% des Français ne voient pas de sortie de la crise sanitaire avant la fin 2021. Et puis la Coupe du Monde au Qatar qui soulève depuis très longtemps un certain nombre de questions sur la façon dont sont traités ceux qui construisent le stade, sur l'opportunité de cette Coupe du Monde. On va y revenir. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Un petit mot quand même sur... Alors j'ai vu ça sur le site de mon libraire préféré, Gérard Collard, qui était avec nous. Figurez-vous qu'il y a une autrice, on ne dit pas auteur, attention, qui a estimé que dans Le Petit Prince, il n'y avait pas assez de femmes. Nous n'existons pas dans le livre le plus lu au monde. Pourtant, j'ai adoré Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais en relisant cet été, je me suis aperçue avec stupeur qu'il n'y avait aucune femme dans ce conte, aucune. Et donc, Julia Pietri, c'est son nom, a décidé de publier La Grande Princesse. Et La Grande Princesse est noire, évidemment, parce que les Noirs, évidemment, la diversité n'était pas respectée par ce salaud de Saint-Exupéry. Voilà. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans la réécriture.
Est-ce qu'on peut lui expliquer que... Enfin, je ne suis pas le français de la situation, moi. J'étais tout simplement naturalisé. Mais voilà, le Petit Prince, c'est le premier livre en français que j'ai lu quand j'étais petit.
Oui, mais vous êtes peut-être devenu extrêmement sexiste et misogyne.
Exactement.
Non,
mais je veux dire, c'était un peu l'histoire, justement, d'un petit prince, d'une petite planète qui découvrait l'univers, qui apprenait d'ailleurs à d'autres personnages de vivre un peu en paix avec les autres, à donner de la valeur aux personnes.
Et je vous rappelle ce que j'évoquais tout à l'heure, l'enfer de Dante, qui a été retraduit en Hollande, une nouvelle traduction dans laquelle est expurgée l'apparition de Mahomet, la rencontre de Dante avec Mahomet dans le 8e cercle, puisqu'il est...
Il est à l'enfer.
Il est en enfer, et comme ça, Dante, c'est pas possible. Donc il y a une espèce d'auto-censure de cette... une réaction des uns et des autres.
Je suis pas certain, excuse-moi Valérie, qu'on soit rentré dans ce coup de com', parce que c'est un coup de com'. Voilà, comment faire exister un livre dont personne n'aurait parlé. Voilà.
Oui, mais ça indique quand même quelque chose sur un mouvement qui est là, qui est de plus en plus prégnant, qui vient des États-Unis, de ces universités américaines, qui sont pour ce wokisme, cette cancel culture.
Oui, mais et où sont les garde-fous? Où sont les personnes qui ont encore un peu de cerveau utilisé?
Mais là où je suis assez d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que c'est encore une fois l'effet d'une minorité qui l'impose à une majorité ou qui essaye d'imposer cette façon de penser. Bertrand Soublet.
Oui, moi je trouve ce mouvement très étonnant et qu'il ait des échos surtout dans notre société parce que les créateurs, parce que ce sont des créateurs, ils correspondent à une époque, ils correspondent à un moment de l'histoire et c'est très compliqué ensuite de venir quelques années ou quelques décennies ou quelques siècles après venir les juger à l'aune de ce que nous avons connu depuis. Tout ça n'a aucun sens. Franchement, je trouve ça d'un ridicule. Probablement, il y a des gens qui n'ont autre chose à faire que ça, j'imagine.
Virginie, c'est même exactement ce que ne font pas les historiens qui, en général, s'attachent à remettre dans le contexte les événements dont ils parlent. Quand on sort les événements du contexte et qu'on les réécrit ou qu'on les réinterprète des années plus tard, ça n'a pas de sens. Moi, je suis consternée par ce mouvement. Et oui, il est peut-être le fait d'une minorité, mais aux États-Unis, ce sont des très grandes compagnies cinématographiques qui commencent à dire, eh ben nous, on va mettre un petit avertissement pour ceux qui voudront regarder Autant on emporte le vent, parce que dans ce film, les Noirs sont très maltraités. Oublions au passage que l'actrice qui jouait la servante, si on peut l'appeler comme ça...
C'était une conquête pour l'époque.
Et non seulement ça, mais elle a été la première actrice noire récompensée, et qu'elle en a été extrêmement fière, et qu'elle a dit à quel point ce film lui avait donné de la visibilité. Donc, je trouve que tout ça est totalement absurde, et surtout très contraire, alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais très contraire au regard que nous, nos enfants, nos parents doivent porter sur l'histoire et les personnages qui ont vraiment compté, et les œuvres qui ont vraiment été écrites dans un contexte particulier. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui, on ne peut pas célébrer Napoléon Bonaparte parce qu'il était esclavagiste. Enfin, voilà. Et là, on peut arriver à des délires qui n'ont plus aucune limite.
Allez, on va passer à notre premier sujet. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était hier soir à 22h30, après un sommet européen. Écoutez ce qu'il disait.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Écoutez, nous en avons fait l'expérience collective, réelle, non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
Voilà, donc deux salles, deux ambiances. Angela Merkel qui s'excuse, qui demande pardon à son peuple. Emmanuel Macron qui dit « je ne me suis pas trompé ».
Intéressant la façon dont il s'exprime. Ouais. Il commence par dire « nous » et il termine par « j'ai ». Et c'est bien la problématique de laquelle nous sommes. C'est le « j'ai ». C'est lui qui décide. À tort ou à raison, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Enfin, c'est peut-être même notre débat. Mais à ce niveau-là, c'est d'une subtilité totale, mais c'est bien lui qui prend toutes les décisions, quelles que soient les positions du Conseil de sécurité, du Conseil de défense, quelles que soient les positions des différents regroupements sanitaires qui lui donnent des conseils.
Oui. Bertrand Soublet.
Bon, écoutez, moi, je trouve qu'on est dans une société et dans un monde politique où tout le monde se justifie en permanence. Ouais. Alors après, on aime ou on n'aime pas, on apprécie ou on n'apprécie pas, on est d'accord ou pas d'accord avec la décision, elle a été prise. Je vois pas l'intérêt de se justifier. C'est peut-être pour prendre le contre-pied de ce qu'a fait Angela Merkel, j'imagine. Mais ce mode d'autosatisfaction, pour moi, il était incompatible avec l'exercice du pouvoir. Et je suis toujours très étonné de voir comment ça fonctionne actuellement. On est, comme dit Jean-Luc Benhamias, on est dans le jeu en permanence. C'est absolument incroyable. Et moi personnellement, pour tout vous dire, ça me dérange.
Oui. Mais ça vous dérange à quel niveau, cette prise de parole ?
Ben, ça me dérange parce que on est toujours dans la justification et dans le jeu, j'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi je vais le faire. J'ai eu l'habitude de prendre des décisions et de commander pendant près de 40 ans. Jamais, je crois que ça m'est arrivé d'avoir des comportements de cette nature. Et les hommes politiques que j'ai côtoyés à l'époque n'étaient pas comme ça.
Oui, Virginie.
Moi, je trouve qu'il manque un terme dans la conversation ou la confidence, si tant est que c'en est une, d'Emmanuel Macron, qui disent « j'ai eu raison de refuser de reconfiner la France pour la troisième fois le 29 janvier », c'est une chose, et d'ailleurs les Français lui en ont été assez reconnaissants à l'époque. Mais qu'ils le disent déjà prouve qu'ils se sont probablement peut-être mis en difficulté, mais ce qu'il ne dit pas, et en revanche, ce qui moi m'aurait intéressé qu'ils disent, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire deux mois après, on peut changer d'avis, pourquoi aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons, avec le nombre de personnes qui sont en réanimation et qui parfois arrivent directement à l'hôpital pour entrer en réanimation parce qu'elles sont maintenues chez elles, sous oxygène, mais quand elles arrivent, elles vont directement en réanimation ou elles restent 3 semaines. Donc pourquoi aujourd'hui, avec ces chiffres-là, il a pris des mesures aussi légères la semaine dernière ? Et pardon, quand il dit « je », oui, c'est bien lui qui prend la décision. D'ailleurs, la semaine dernière, semble-t-il, il a pris sa décision à la dernière minute, ne prenant même pas la peine d'en informer complètement son exécutif qui, pendant 3 jours, Zemmour s'est comporté, j'allais dire, les yeux fermés, sans bien savoir où il fallait aller, se faisant d'ailleurs contredire d'une minute à l'autre par les uns ou les autres. Franchement, ce genre de déclaration est très ressemblante au caractère d'Emmanuel Macron, mais très révélatrice, je trouve, d'une incapacité à se remettre en cause. On peut prendre une décision en janvier et on peut changer de décision en mars parce que la situation elle-même a évolué. C'est ça la souplesse du raisonnement. Emmanuel Macron semble, lui, omnibulé par l'idée de « j'ai raison parce que j'ai décidé que j'avais raison, donc j'ai encore raison aujourd'hui ». C'est toute la question.
Oui. Alors, vous aurez la parole dans un tout petit instant, Matteo Ghisalberti. C'est la pause qui nous est rappelée par la petite musique. Petite pause très rapide et on revient dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous avons eu raison, dit Emmanuel Macron, pas de mea culpa, l'arrogance qu'on lui reproche est-elle de retour? Je pose la question, Matteo Ghisalberti, on ne vous a pas entendu sur ce sujet, pourquoi cette intervention? Quelqu'un ce matin me disait, j'ai eu l'impression de voir Helmut Kohl sortant d'un congrès européen en 92, c'est pas comme s'il y avait des milliers de morts partout et que la situation était quand même celle qu'on connaît. Quand il dit les épidémiologistes se sont trompés, non, ce qu'ils ont prévu est en train d'arriver avec quelques semaines de décalage parce qu'il y a eu la vaccination entre-temps. Mais là, ce matin, pardon d'être longue, mais tous les médecins épidémiologistes spécialistes vous disent que ce soit en Allemagne, le ministre de la Santé, Didier Pittet, qui ce matin dit également, nous ne sommes pas au pic de la catastrophe qui nous attend.
Non, mais je pense que M. Macron n'a pas mis en compte le fait qu'on risque d'arriver à 150 000 morts. Parce que malheureusement, les tendances sont très importantes, en tout cas. Et puis, il a omis de dire une série de choses, parce qu'il dit que, justement, il avait raison, selon lui, de ne pas nous reconfiner. Bien sûr, nous en avons profité, entre guillemets, mais quand même, il faut aussi se rappeler que lui, il a dit que les pays qui ont essayé de mettre en place le Covid-0 n'ont pas réussi, peut-être en Europe, mais je voudrais lui rappeler qu'en Nouvelle-Zélande, pour quelques dizaines de cas, ils ont fermé toute la ville d'Auckland pendant quelques semaines. En Australie aussi, ils avaient bien fermé tout le pays et surtout certaines villes. Taïwan, qui a vraiment eu très peu de cas et très peu de morts. Excusez-moi, de quoi on parle? Et puis, n'oublions pas aussi que l'Allemagne, mais aussi l'Italie, mais aussi la Grande-Bretagne, surtout la Grande-Bretagne, et même Israël, maintenant, ils sont, enfin, la Grande-Bretagne et Israël en particulier, ils ont avancé, on le sait, très bien avec les vaccinations. Mais avant, ils avaient aussi confiné. Parce qu'ils avaient fait des confinements. Je parlais d'Israël, par exemple, pour les fêtes de la Nouvelle An juive. Ils avaient fait aussi, le mois de janvier, il y avait des restrictions importantes. Et puis, ils vaccinaient à tout va. Ici, on ne l'a pas fait. Donc, à mon avis, il s'est doublement trompé parce qu'en janvier, on aurait pu supporter un peu plus le fait de rester à l'intérieur. Là, c'est fini. Et en plus, Emmanuel Macron a deux problèmes. Le premier, qu'il se sent déjà en campagne électorale et vraisemblablement, il se sent gagnant de toute compétition, mais il risque d'avoir 150 000 morts sur la conscience. Et la deuxième chose, c'est qu'il a peur des banlieues. Donc, rien, on ne fera rien parce qu'il a peur d'un embrasement de la société. Mais désolé, on ne gouverne pas comme ça. On n'élit pas des présidents de la République qui ont tous les pouvoirs en France pour ne pas prendre des décisions comme il faut.
Oui, il est droit dans ses bottes. Il ne veut pas se déjuger non plus par rapport à ses décisions. Bertrand Soublet.
Écoutez, je pense que quand on est un homme politique, il faut savoir à un moment donné reconnaître que parfois on n'a pas pris les bonnes décisions, on peut s'être trompé, et ce n'est manifestement pas dans les cultures de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et c'est tout à fait regrettable parce que, en fait, c'est l'ouverture d'esprit des hommes politiques qui permet de faire avancer la société. Or, à ce stade, je ne la vois pas trop.
Non, pas vraiment. Virginie
L'ouverture d'esprit et surtout l'adaptation au réel. Quand Emmanuel Macron dit le virus, je crois qu'il a eu cette phrase il y a quelques temps où il a reconnu que le virus était plus fort que tout, il y a un moment où si le virus est vraiment plus fort, on prend les décisions qui s'imposent. Mais là, il y a comme un dogme. D'ailleurs, on entend bien le mot dogme qui vient des confidences. Il y a comme un dogme. On ne peut plus parler de confinement et on ne peut plus parler de fermeture des écoles. Et en dehors de ces deux dogmes, on ne peut plus rien faire. C'est
et
dommage.
Entre-temps, il y a les pays frontaliers, par exemple l'Allemagne, grande copine de Emmanuel Macron, qui prend les décisions pour nous. Parce que ce matin, ils ont décidé de d'augmenter les contrôles à la frontière. Ils l'avaient déjà fait avec la Moselle. Et maintenant, ils prennent d'autres décisions. Parce que si...
Ils ne veulent pas voir les Français venir faire la fête chez eux.
Mais voilà, c'est compréhensible.
Jean-Luc Benhamias, vous voulez intervenir?
Le véritable problème, tout le monde le connaît, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins. Le véritable problème second, c'est que l'Union européenne s'est très, très mal démenée pour avoir les vaccins. Ça se voit tous les jours. Un bureau d'études qui n'est pas payé par le gouvernement français, comme beaucoup d'autres bureaux d'études sur le vaccin, vient de montrer que le fait qu'on soit en retard par rapport aux commandes de vaccins va coûter à l'Union européenne 123 milliards d'euros. Je vous rappelle juste le budget annuel de l'Union européenne, c'est 150 milliards d'euros. Voilà, tout ça est dû pour moi à des équilibres économiques et financiers internationaux dans lesquels l'Union européenne est incapable de peser sur quoi que ce soit. Oui. Et de ce fait, on est dans une situation extrêmement délicate puisque on aimerait bien vacciner plus de personnes et on n'y arrive pas. Ouais. Et que c'est pas malheureusement demain, même si on nous dit avril, mai, les vaccins vont arriver, on sait que c'est pas si simple que ça parce que le marché libre tel qu'il est au niveau concurrentiel, au niveau international, fait que c'est au plus offrant.
Non, mais Emmanuel Macron avant-hier disait on n'a pas été assez fou. Déjà, cette expression est assez sidérante. On n'a pas été assez fou. Enfin, on parle de folie dans une pandémie comme celle-là, pour commander des vaccins.
Il avait le dogme européen de frontières ouvertes qui n'ont pas contribué à arranger la chose.
Et puis quand on s'est mis dans une situation difficile, moi j'allais dire, les dirigeants européens s'y sont mis tout seuls, parce que d'abord ils ont signé leur contrat. Exactement. Extrêmement tard. Et en plus, les 10 contrats n'ont pas été suffisamment vissés dans tous les détails. Et notamment, il n'y a pas de date de livraison, alors que le contrat que l'Angleterre a passé est extrêmement précis et quasiment incontournable. Nous, on a fait comme si il suffisait de signer un contrat avec du retard et avec des prix qui n'ont pas été... qui ont été négociés, mais comme si c'était ça l'essentiel, mais avec des conditions qui elles-mêmes n'ont pas été négociées, comme si finalement tout ça n'avait pas d'importance. Mais non, tout ça a beaucoup d'importance. Et Emmanuel Macron, qui est si sourcilleux sur certaines choses le concernant, aurait pu être plus sourcilleux sur la rédaction des contrats. Et je pense qu'on ne serait pas dans cette situation où aujourd'hui AstraZeneca se permet de livrer un tiers des doses depuis le début de la campagne vaccinale. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Europe a 7 semaines de retard sur ce qui était prévu et que ça coûte à la France chaque semaine 3 milliards. Donc, il y a un moment, il faut un tout petit peu être raisonnable. Ce qui s'appelle l'intendance, l'organisation, l'aspect juridique des choses, tout ça compte énormément. Et là, on le voit bien qu'on est, d'une certaine façon, impuissant à faire respecter les termes d'un accord qui est trop lâche.
Oui. Quand on n'est pas capable, dans notre propre pays, de produire ces médicaments indispensables, ces vaccins indispensables, voilà ce que ça donne. Or, nous sommes un des seuls pays. Regardez, l'Italie est capable d'en produire. Alors, c'est l'histoire sur AstraZeneca. Il y a X millions de vaccins qui traînaient et qui... dont on est inquiet de savoir qu'ils vont sans doute repartir en dehors de l'Europe. Mais à ce niveau-là, le fait que la France n'ait pas réussi à produire un vaccin, et je ne citerai personne, tout le monde voit bien de qui je parle, c'est vraiment extrêmement dommageable et on le paye très cher.
Jean-Luc, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a d'autres pays qui ont commencé aussi à prendre des accords pour produire le Sputnik V. Et la France rejette pour des raisons encore une fois idéologiques et politiques. Mais effectivement, c'est difficile après 5 ans passer à dénigrer la Russie, à dire que c'est le pays des monstres, non respecte de tous les droits. Effectivement, c'est difficile pour la France d'aller demander des vaccins. Mais il ne faut pas oublier non plus aussi le fait que Emmanuel Macron, il y a un an, nous parlait de guerre. Je m'adresse d'ailleurs au général qui est avec nous aujourd'hui. Mais est-ce que c'était vraiment impossible, à votre avis, de monter des hôpitaux de campagne ou de réquisitionner les cliniques privées? Parce que si on est en guerre, vous m'apprenez, j'imagine, que... quand on a une guerre, on peut prendre des décisions effectivement extraordinaires.
Absolument. Mais c'est les premiers commentaires que j'avais fait au début de la crise, c'était ceux-là. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article en disant que cette crise ne peut pas être traitée de manière politique, elle doit être traitée de manière technique, de manière pragmatique et rationnelle. C'est exactement ce qu'on n'a pas fait. Et toutes les décisions qui ont été prises, elles ont été prises sous l'angle et l'approche politique et non pas technique. Il s'agissait de protéger les Français et il s'agissait pas de garantir l'image du gouvernement dans la durée. Or, toutes les décisions qui ont été prises, effectivement, elles ont été prises à l'aune de des conséquences que ça pouvait avoir pour le gouvernement. Et vous avez raison. En effet, quand on est en situation de crise comme ça, il y a des décisions extraordinaires. Il aurait fallu mobiliser tous les moyens dont nous étions détenteurs, parce qu'on en avait quelques-uns qu'on n'a pas mis en œuvre. Vous avez cité le fait que les cliniques privées n'ont pas été sollicitées sur la première vague, ce qui est une erreur absolument majeure et qui a été dénoncée par tout le monde. Et des erreurs comme ça, de cette nature, il y en a eu beaucoup. Mais vous avez raison, une crise de cette nature, ça doit être traité de manière rationnelle, pragmatique, sans une approche politique, parce que l'approche politique déforme tout.
Ouais. D'ailleurs, un des enseignements majeurs de cette pandémie, je trouve, au niveau français, a été de constater la paralysie de cette administration surobèse, qui a été incapable de prendre des décisions rapides, incapable même de s'entendre entre elles, parce que parfois ils avaient des fichiers différents qui n'étaient pas compatibles, ils ne se parlaient pas entre différentes directions d'administration, et qui est toujours incapable de le faire. Et je rappelle que réformer l'appareil de l'État était un des engagements d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, et qu'il n'a pas commencé le début du quart, du milieu, d'un centième de cette réforme, et que non seulement ça, mais qu'aujourd'hui, il est totalement défaitiste par rapport à cette administration, et ça prouve d'ailleurs qu'il y a chez nous une culture de l'infaillibilité. Tous ces gens-là sortent de la même école, ont la même formation intellectuelle, et on leur apprend pendant leurs écoles que ce qu'ils pensent est exactement ce que tout le monde doit penser, et ça, ils n'en sortent pas, et Emmanuel Macron n'en est pas sorti au bout de 4 ans de pouvoir, et c'est vraiment dommage.
Voilà. Je voudrais juste répondre à Sacha qui m'accuse de propager mes propres angoisses et la honte et de dire on m'a dit un ami médecin. Il n'y a pas que un ami médecin. C'est évidemment qu'il n'y a pas de que des morts. Il y a des Covid longs. Vous aussi vous parlez d'où vous êtes, mais il y a des gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas de comorbidité, qui se retrouvent en réanimation. Il y a ces Covid longs qui sont quand même de plus en plus nombreux et de plus en plus grave. Beaucoup de gens souffrent de fatigue, d'essoufflement, n'arrivent pas à revenir. Donc, on ne parle pas que de morts, on parle quand même d'une épidémie qui impacte assez fortement.
Et des autres réanimations qui sont...
Des autres réanimations qui, aujourd'hui, on déprogramme 80% des choses. L'idée n'est pas de faire peur aux gens, l'idée est de dire la réalité. Quand vous avez des gens comme un certain nombre de nos médecins sérieux disent les choses, eh bien moi, je les crois et ce n'est pas de l'angoisse de ma part. Je voulais juste vous répondre parce que d'où vous parlez, c'est pas plus éloquent que de où je parle, me semble-t-il. Allez, à tout de suite.
D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de rassuristes aujourd'hui parmi les responsables des hôpitaux.
Responsables des hôpitaux, non, il n'y a pas beaucoup de rassuristes.
Alors qu'il y en a eu finalement assez régulièrement qui s'opposaient aux angoissés. Là, il y a beaucoup plus d'angoissés qui disent à quel point la situation est sous tension et qui se demandent comment ils vont tenir demain, après-demain, dans 8 jours.
Ouais, allez, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble et on commente l'actualité. On a deux auditrices en ligne. Danielle, bonjour, qui nous appelle de Haute-Marne. Bonjour Danielle.
Oui, bonjour. Je voulais réagir dans un premier temps à la phrase qui a été prononcée au sujet de Macron en disant qu'il dirigeait tout, qu'il avait fait tout en lui, qu'il avait la bonne parole. Bon, à partir du moment où on est chef d'État, effectivement, il faut bien diriger certaines choses. Mais bon, ça c'est un truc à part. Par contre, je rejoins totalement les derniers intervenants qui ont parlé, entre autres le monsieur qui a dit qu'il y avait des décisions politiques qui avaient été prises pour gérer la crise et non pas des décisions plutôt pragmatiques. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. On a fait entrer le politique plutôt que les choses très...
Bertrand Soublet, oui. Ouais.
C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, c'était simplement pour ça, parce que ce qui m'avait un petit peu mis, un petit peu énervé, c'est qu'on critique sans arrêt les mesures qui sont prises. Mais comment voulez-vous faire? Il faut bien prendre des décisions, hein, les tester, et si elles ne vont pas, revenir sur ces décisions. Donc, on tâtonne, on y va à petits pas, mais ils n'ont pas tous la bonne formule. Hein. Avec ce qui se passe actuellement, c'est pas possible. Hein.
Bah, oui, mais il faut prendre les bonnes décisions. Et alors, je suis d'accord avec vous que personne n'aimerait être à la place d'Emmanuel Macron.
Exactement.
Sauf qu'il y a un certain nombre de décisions qui auraient pu... Alors, c'est aussi toujours facile de refaire le match, mais Bertrand Soublet, peut-être que vous pouvez répondre sur le fait que peut-être qu'une gestion par un militaire, comme ça a été fait dans certains pays, je ne parle pas de faire revenir les militaires au pouvoir. Je parle de...
Il
faut être nuancé. Mais enfin, Bertrand Soublet, peut-être que cette organisation aurait pu être différente. Merci Daniel.
Je ne juge pas les décisions qui ont été prises. J'observe simplement comment elles ont été prises et dans quel contexte. Après, je ne sais pas qui aurait fait mieux, mais probablement des gens qui sont habitués à gérer des crises l'auraient fait de manière différente. Or là, les critères qui ont été pris en compte initialement, au début de la première crise, j'allais dire au premier confinement, les critères qui ont été pris en compte ne sont pas des critères objectifs pour traiter la crise, c'était des critères politiques. C'est juste ça que je dis. Ensuite, franchement...
Le confinement était une décision que les médecins poussaient, à laquelle les médecins poussaient beaucoup. Ça, c'était vraiment une décision qui n'était pas une décision politique, c'est une décision lourde.
Oui, non, mais là, oui, le confinement, il n'y a pas de sujet. Après, la question, c'était, est-ce que confinement total, confinement différencié, et ça, si vous voulez, dès le début, il y a eu un certain nombre de propositions de cette nature-là.
C'est vrai.
Et je pense qu'on aurait pu déjà avoir un peu de souplesse, mais il n'y en a pas eu.
Voilà. Je voulais vous faire commenter ce petit montage qu'a fait notre réalisateur qui, à propos de la conférence de presse... Pardon, je reprends tout. C'est un montage...
On reset,
voilà, le grand reset. On remonte un montage de certains des propos de j'allais l'appeler Emmanuel Véran, d'Olivier Véran, hier à 18h, écoutez.
Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Il y aura un après-Covid, bientôt. Sky is the limit, pardon, pour l'horrible anglicisme. On entend souvent, et je ne sais pas si c'est une légende, que les Inuits ont plusieurs dizaines de mots pour désigner le mot neige. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas un confinement. Il y a, passez-moi l'expression, 50 nuances de mesures qui tiennent compte de la situation épidémique proprement dite et de ce que nous savons du virus.
Ben disons que celle-ci est très très nuancée, voilà. Tellement nuancée que les Français ne l'ont pas vue, le confinement, avec un couvre-feu qui a décalé d'une heure et des gens qui peuvent être dehors toute la journée et rester où ils veulent. Je ne suis pas sûre que...
50 nuances de confinement.
C'est un confinement
mais
très light.
C'était peut-être une façon de nous dire que Olivier Véran est abonné à des plateformes de contenu vidéo parce qu'il a vu des 50 nuances de gris, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce film. Et il est abonné aussi à History Channel pour voir les documentaires historiques. Voilà, enfin, c'était peut-être pour ça qu'il nous a fait ces citations.
Oui, un mot à tous les deux, peut-être Jean-Luc Benalia, sur la sémantique, les citations, Mandela.
Je crois qu'il parle trop. Et on le voit tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils n'ont plus rien à dire, on tombe en plein délire. Et là, clairement, je n'avais pas entendu ça. Bon, c'est un montage, bien sûr, donc c'est évidemment plus complexe, mais je ne sais plus ce qu'il a à dire, là, parce que clairement, il a été désavoué, vous l'avez bien vu ces dernières semaines. Lui, jouant le rôle du médecin-chef, il était pour un confinement un peu plus strict. Ce n'est pas mon cas, mais il était pour cela. Et puis, il a été désavoué par le président de la République. Donc maintenant, ils prennent la parole. Mais cette crédibilité, on en a déjà parlé sur Sud Radio régulièrement, tombe au fur et à mesure, jour après jour, parce que clairement, il y a plusieurs voix et qu'on sent bien qu'ils ne sont pas d'accord sur les décisions à prendre. Bon, voilà. Ça ne permet pas à nos concitoyens de savoir exactement où nous allons, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais que vraiment, il est grand temps, je le redis, je le répète, que nous vaccinions le plus possible, quelle que soit la marque du vaccin, que ce soit même Spoutnik ou un autre vaccin. Mais allons-y, quoi, parce que c'est, semble-t-il, hein, dans la situation dans laquelle nous sommes, la seule réelle porte de sortie.
Oui, Bertrand Soublet.
Oui, Jean-Luc Benamias a raison, je parle, il parle trop, vraiment, il parle trop. Alors, elle est magnifique cette citation de Nelson Mandela, parce que je l'approuve totalement. Le seul truc, c'est qu'il ne la met pas en application. J'aimerais bien qu'il la mette en application. Le problème de nos hommes politiques actuellement au pouvoir, c'est que lorsqu'ils parlent, ils pensent que lorsqu'ils ont parlé, ce qu'ils ont dit devient réalité immédiatement, ipso facto. Eh ben non, la vraie vie, c'est pas comme ça.
Oui, absolument. On a Karine en ligne avec nous. Bonjour Karine.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Oui, vous m'entendez?
Oui.
Je vous écoute et ce qui me chagrine et ce qui me rend très triste, c'est qu'on a l'impression qu'on... Allô?
Oui, oui, on vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne.
On a l'impression qu'on découvre ce qu'est Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est quand même l'essence même de ce qu'il est et sa marque de fabrique, c'est l'arrogance. Et le manque total d'expérience pragmatique et pratique. Et c'est vrai aussi pour son entourage proche. On n'aurait pas le temps de refaire l'historique. Votre collaborateur a fait sur Olivier Véran est tout à fait évidemment amusant et intéressant. Mais vous pourriez faire exactement la même chose avec Emmanuel Macron et ça serait encore pire. C'est quelqu'un, si vous voulez, quand vous écoutez ces éléments de langage, on a l'impression qu'il se met à l'extérieur un spectateur de son propre gouvernement. Comme s'il en était... Alors, lorsqu'il y a eu des problèmes bureaucratiques, etc., c'était presque lui, la victime de son propre gouvernement, c'est des gens, et Olivier Véran a exactement les mêmes éléments de langage, c'est des gens qui n'arrêtent pas de donner des injonctions. C'est-à-dire que j'ai demandé, je veux qu'on vaccine, je veux ceci, etc. Comme si eux, et ils ne mettent jamais, et ils sont d'ailleurs incapables de mettre les mains dans le cambouis et de générer un euro de chiffre d'affaires. De la même façon, lorsqu'ils font des injonctions de création de richesse aux autres, alors qu'eux-mêmes en sont incapables. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que lorsqu'il a cette politique de quoi qu'il en coûte, mais il aurait été peut-être intéressant d'appliquer cette politique sur la vaccination et sur, par exemple, l'augmentation de lits de réanimation. Or, je veux dire, c'est quelqu'un qui est je parle là d'Emmanuel Macron, qui est tellement plus préoccupé à devenir le roi de l'Europe, avec une idéologie complètement, rigide là-dessus, que finalement, il en oublie complètement de défendre les intérêts de son propre pays et de son peuple. Moi, je me souviens, encore une fois, de son discours à Davos, d'une intervention lorsqu'il a fait la visite au salon de l'agriculture, où quelqu'un lui expliquait ses problèmes et lui dit « vous avez qu'à vous débrouiller », etc. Ah, mais moi, je lui dis exactement la même chose, vous avez qu'à vous débrouiller, monsieur. C'est quelqu'un qui est incapable de gérer en période de crise avec des contraintes. Et il suffit, par exemple, d'écouter des discours parfois de grands chefs d'entreprise. Moi, j'avais entendu une fois Carlos Tavares, qui est le PDG de Peugeot, qui est quelqu'un qui a redressé cette boîte. Mais écoutez-le, je veux dire, vous sentez l'expérience, vous sentez quelqu'un qui a véritablement géré des personnes, qui a géré des crises. Monsieur Emmanuel Macron, il est passé de l'ENA à Rothschild. Et alors, tout l'historique qui a été fabriqué pour sa montée donc de popularité et pour son élection, vous voyez bien que tout ça c'est bidon. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours navigué dans des milieux, je veux dire, complètement favorisés où il n'a donné que des ordres, il n'a jamais généré quoi que ce soit par lui-même.
Merci Karine. Virginie, vous le connaissez, enfin vous êtes journaliste politique, donc est-ce que ce portrait vous semble juste de ce que
ce qui est vrai ou ce qui semble vrai en tout cas quand on regarde Emmanuel Macron, c'est que jusqu'à son élection il n'avait jamais été confronté au réel, et un réel que, de plus, il ne connaissait pas, parce qu'il ne connaissait pas le pays. Il a d'ailleurs dit lui-même que lorsqu'il a fait des déplacements au moment du grand débat, c'était une façon pour lui de rattraper son retard, il l'a plus ou moins reconnu, mais que même aujourd'hui, parce que finalement ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir, cette confrontation au réel ne génère pas chez lui de raisonnement plus pragmatique, de décision immédiate. C'est que dans le virtuel, que dans le... l'intellectuel, où il est certes très virtuose, mais il est incapable, et on l'a entendu ces derniers temps, il est juste capable de dire « Ah ben oui, moi je suis pas content qu'il y ait des vaccins dans les frigos, et je me retourne contre ceux qui ont laissé les vaccins dans
les
frigos. »
C'est pas moi, c'est lui.
Et il y a 3 jours, il a encore dit « Ah, j'étais pas content de cette attestation. » Comme si c'était jamais lui qui n'était responsable de rien, et que quand il est un tout petit peu agacé, il se retourne vers qui ? Vers des gens qu'il a lui-même créés, qui sont l'émanation même de l'exercice de son pouvoir, pour leur dire « Ah, le président n'est pas content ». Je trouve que c'est très faible, finalement, comme façon d'appréhender le pouvoir.
On aurait pu attendre aussi qu'il dynamite un petit peu la haute fonction publique.
Qu'il avait promis de faire.
Je vois juste un exemple. Dans le 7e arrondissement, avait été proposé de mettre en place un QR code pour que les gens vaccinés aient sur leur téléphone, comme ça se fait au Maroc, ce QR code qui dit que vous avez été vacciné, avec quel type de vaccin. Eh bien, la mairie de Paris, le gouvernement, tout le monde s'est opposé à cela.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a des raisons politiques, encore une fois.
Oui, c'est ça.
On déjà, le 7e arrondissement, ce n'est pas de la même couleur de l'administration parisienne.
C'est un exemple parmi d'autres. C'est ce chef d'entreprise qu'on a reçu, qui a mis au point un appareil qui semble très prometteur pour recycler l'air. C'est le docteur, un des médecins qu'on a reçu, qui l'a signalé, Olivier Véran. Cette entreprise bretonne n'a eu aucun retour. Il y a des choses, mais on ne comprend
Valérie,
pas.
Quand on est habitué à cause de, je vous le dis souvent quand je viens ici, à cause de la 5e République, de la constitution de la 5e République, on est habitué à avoir tous les pouvoirs, tous les pouvoirs, on pense qu'on peut décider de tout et même des choses qui sont presque physiologiques de la vie des gens. Oui. Là, en plus, avec la concentration du pouvoir qui a été augmentée avec la superposition du quinquennat du Parlement et de la présidentielle.
Et des législatives, c'est ça.
Voilà, c'est insoutenable. Ouais. Et d'ailleurs, là, on paye encore les frais parce qu'en fait, tout le monde pense déjà à la présidentielle et aux législatives, parce qu'un député ne veut pas faire celui qui dit on ferme tout dans ma circonscription, parce qu'il ne sera pas élu, il risque vraiment de perdre beaucoup
de votes. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Qatar, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar à l'occasion d'un match de qualification? Les joueurs norvégiens d'une sélection ont affiché sur leur t-shirt, sur leur maillot plus précisément, droits humains sur et en dehors du terrain. Plusieurs clubs norvégiens se sont prononcés en faveur d'un boycott du Mondial après les révélations qui ont été faites, et ça fait plusieurs mois depuis que ce chantier est commencé sur la construction du stade. C'est le quotidien The Guardian qui a affirmé que plus de 6500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis l'attribution en 2010 du Mondial. Ces conditions font évidemment toujours débat. Il y a une enquête pour corruption, je le rappelle, en France qui est en cours. Et cette action des joueurs norvégiens a un peu éveillé quand même une certaine conscience au sein du football mondial. Est-ce que ça vous semble possible? Il y a tels enjeux financiers que ça paraît compliqué. Je sais pas qui.
C'est absolument impossible. Bon. Je comprends, mais on va faire un débat. Peu d'histoire. Coupe du monde de football en Argentine sous la dictature militaire. Champion Jeux olympiques à Moscou en 80 sous une dictature que tout le monde connaît. Sotchi n'a pas été beaucoup plus brillant au niveau des Jeux olympiques d'hiver avec Poutine. Et je pourrais en rajouter. Le Qatar a eu aussi les championnats du monde de handball en 2015. Alors, je reconnais qu'il est bon que des sportifs professionnels mettent en avant des protestations. Mais pour le reste, je peux vous dire que la Coupe du monde aura lieu au Qatar, malgré tout ce que nous savons depuis des années.
Oui, c'est ça.
Construction faite par des esclaves, construction faite par des salariés qui sont sous-payés, qui sont quasiment, je dis esclaves parce que le terme est vrai, voilà. Mais à ce niveau-là, le monde du sport, je viens de faire quelques exemples, j'aurais pu en donner d'autres, va jusqu'au bout à chaque fois.
On pourrait toujours s'améliorer. Hein. Peut-être je suis un doux rêveur, mais déjà, c'est intéressant de se rappeler effectivement que ça fait des années qu'on dit qu'on reçoit des informations et qui sont commentées un peu à droite à gauche dans le monde sur les conditions de travail de ces personnes. Mais le monde sportif, il a été toujours, en tout cas, exempté d'avoir une conscience, parce qu'on peut se dire effectivement que le monde du sport est gouverné par l'argent, mais il y a quand même, enfin, le sport n'est pas sur la lune, il y a quand même des hommes et femmes politiques dans plusieurs pays qui ont aussi des charges comme des ministres du sport, etc. Et désolé, parce que quand on nous bassine après toutes les histoires des minorités, des droits humains, de l'écologie, excusez-moi, mais pour faire un championnat du monde dans un pays qui est désertique, il faut un peu refroidir l'air, disons, dans les stades. Je ne suis pas un expert, mais j'imagine qu'on utilise un peu beaucoup d'énergie, voilà, et d'eau. Au passage.
Oui,
Personne n'a rien dit. les écologistes qu'en France sont toujours vent debout pour nous dire que
ils ont quand même, ils se sont quand même exprimés depuis un moment. Maintenant, comment
Mais je vous rappelle qu'ils pourraient prendre des décisions vu qu'ils ils sont plutôt copains avec le gouvernement français parce qu'il y a des écologistes qui font partie du gouvernement français.
Ouais.
Voilà.
Non, mais comment voulez-vous Excusez-moi, après j'arrête.
Ouais, ouais.
Mais que vu les relations que la France a avec le Qatar à plusieurs niveaux et à tous les niveaux, notamment au niveau d'un grand club de foot que tout le monde connaît et d'un président qui avait négocié tout cela, comment, notamment la Coupe du Monde au Qatar, moi, sur le fond, je suis d'accord, il faut protester. Mais je vous donne la réalité, malheureusement, et la France est la plus mal placée pour critiquer quoi que ce soit.
Bien sûr, un enjeu financier qui est extrêmement fort, Virginie.
Oui, moi je rappelle que ça fait des années aussi que certains journaux sportifs affirment ou laissent entendre que plusieurs membres du comité exécutif de la FIFA auraient reçu de l'argent du Qatar et que le Qatar aurait acheté cette Coupe du Monde. Et
ça fait des années. Il y a une enquête qui est en cours pour corruption.
Oui, mais voilà. Et ça fait des années qu'effectivement, on entend des arguments climatiques et que là où il y a les Jeux vont se tenir, là où il y aura une température de plus 50, ce qui d'ailleurs peut mettre en danger la vie des sportifs, qu'effectivement, pour refroidir cet air, il n'y aura rien de très écologique et que les ouvriers qui sont censés travailler à marche forcée pour mettre en conformité le pays pour accueillir cette Coupe du Monde sont traités comme des esclaves, c'est vrai, payés avec des salaires de misère, et ne parlons
empêchés de sortir aussi parfois.
Exactement, et ne parlons pas de ce qui a été dit, alors parfois de façon anecdotique, mais ça s'en est vraiment pas, du viol des femmes réguliers qui viennent travailler sur ces chantiers et qui sont là-bas monnaie courante. Donc il y a beaucoup de vrais problèmes qui se posent, vrais problèmes auxquels je suis d'accord avec Jean-Luc Benamias, personne ne va répondre. On est beaucoup trop près du but maintenant. On en parle depuis 2010, on est en 2020, c'est dans deux ans, il ne se passera rien. Le monde sportif et la FIFA sont sourds et aveugles.
Mais on trouve la force, c'est pas contre vous ni contre Jean-Luc Benamias.
Mais puissiez-vous avoir raison.
Je me demande tout simplement, on trouve la force pour monter des contestations, par exemple du monde culturel à telle ou telle cérémonie de remise des prix. Les Oscars, ils trouvent la façon de représenter la voix des minorités, etc. Et là, personne se pose le problème des gens qui sont peut-être une minorité au Qatar, mais qui sont des esclaves en 2021.
Bertrand Soublet.
Vous savez, maintenant, on n'y changera rien. Elle aura effectivement lieu. C'est normal qu'il y ait des contestations qui s'expriment, parce que tout le monde sait qu'au Qatar, il se passe des choses absolument inadmissibles. Mais j'observe quand même que ce pays a été choisi en 2010.
Oui, oui.
Donc, il y a déjà plus de 10 ans. Que rien n'a changé depuis. Et que au Qatar, il y a déjà 10 ans, ça se passait déjà. À Dubaï, quand beaucoup d'hôtels, de bâtiments sont construits, ce sont exactement les mêmes conditions. Je le sais parce que j'y étais. Mm. Je l'ai constaté. Et personne n'a bougé.
Non.
Donc, effectivement, la Coupe du Monde aura lieu dans un pays qui n'est pas forcément toujours très recommandable. Mm. Il faut que des contestations s'expriment, mais ça aura lieu au Qatar. Mm. Et nos liens, en plus, entre la France et le Qatar existent, parce que je peux vous dire que dès 2010, il y avait un colonel de gendarmerie qui était détaché au Qatar pour s'occuper des questions de sécurité pour la Coupe du Monde.
Oui, donc ça aura lieu. Et c'est vrai que la Norvège n'a pas beaucoup de poids en plus.
Il faut souligner malgré tout le courage de ces sportifs qui dénoncent presque dans le désert, qu'ils dénoncent.
On ne verrait pas tellement les joueurs du PSG le faire, puisqu'ils appartiennent au Qatar. Oui. Eh bien oui, ils appartiennent au Qatar. Alors la FIFA, grande seigneur, a décidé qu'elle ne sanctionnerait pas la Norvège, dites donc.
Ah,
c'est quand même assez formidable. Quelques mots sur ce sondage tout de même. 60% des Français ne voient pas de sortie de crise avant fin 2021. C'est un sondage IFOP Fiduciale pour Sud Radio et CNews et pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Cela montre à quel point les Français sont plongés dans une logique d'incertitude et d'épuisement. Vous allez me dire qu'on n'a peut-être pas besoin des sondages pour le savoir, mais il y a une forme de résignation et de défiance aussi vis-à-vis de ce que disent les politiques. Thierry Breton qui disait immunité au 14 juillet. Qui Thierry Breton? Peut-être Bertrand Soublet sur ce désespoir des Français qui n'est pas très étonnant.
Ben oui, forcément, parce que ça fait déjà une année qu'on subit la situation sans voir le bout. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Nous avons des vaccins qui arrivent. Une grande partie de la population sera vaccinée, j'espère, avant la fin de l'été. Et on peut imaginer que le fait d'avoir vacciné 70, 75, 80% de la population avant la fin de l'année nous permettra de sortir de cette crise et de retrouver une vie à peu près normale. Mais ouais. Je ne suis pas un spécialiste, mais ouais. Simplement, j'exprime un peu de bon sens.
Oui, Virginie.
Oui, moi je souhaite que vous ayez raison, mais je note que à chaque fois que le gouvernement a donné des dates pour dire vous verrez, les jours heureux reviennent, les jours heureux sont là, les jours heureux
15 avril,
on y est, et que le dernier à avoir donné un objectif, c'était effectivement Emmanuel Macron pour le 15 avril, à chaque fois ces dates sont démenties. Et quand vous dites il faudrait que la campagne de vaccination s'accélère, certes il faudrait qu'elle s'accélère, mais ça fait 2 mois qu'on nous dit là aussi qu'elle s'accélère, et elle ne s'accélère que très 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 lentement. Mmh. Donc si vous aviez raison, ça serait franchement une très très bonne nouvelle. Mmh. Mais je note aussi que les dernières déclarations de l'exécutif ont manqué singulièrement de perspective. Mmh. Les Français, on leur dit, voilà, on fait ça aujourd'hui, mais après on leur dit pas, il va se passer ça demain et après-demain. Comme si ce gouvernement ne faisait que gouverner au jour le jour et était finalement un peu dans l'incapacité de projeter les Français vers quelque chose qui serait l'après-pandémie.
Mmh. Jean-Luc ?
On revient toujours à la même chose.
Ouais.
Est-ce que ce gouvernement et ses différents ministres, même s'ils parlent trop, ou le président de la République, seront capables de dire, comme l'a fait Mme Merkel, de dire, voilà, à un moment donné, on pensait que, mais on s'est trompé. On pensait recevoir tant de millions de doses de tel ou tel vaccin, mais on s'est trompé. Et à ce niveau-là, le sondage le donne. Hein. Moi, je crois que ce que ce sondage veut dire, c'est que les Français sont très lucides.
Oui, non, mais tout à fait. Bah, allez, hier, c'est fini.
Il y a le professeur Djalil Annan de Raymond Tancaré qui disait hier sur CNews qu'on sortira pas, on reviendra pas à la normale avant la fin de la décennie.
C'est carrément très très pessimiste. Merci à tous les quatre. Merci pour cette note d'espoir. J'ai même pas de truc rigolo à vous raconter. Si peut-être Éric Piolle qui dit il faut revenir à des relations diplomatiques normales avec la Turquie. Voilà, vaste.
Bon courage.
Est-ce que ce serait un rapport avec le financement de la mosquée?
Ben voilà, je vous lance ça maintenant, on en rediscutera. À méditer ce week-end. Très bonne journée à tous, très bon week-end sur Sud Radio.
Merci, bon week-end.